un ouvrage qui s'intitule Ossium. Ossium, c'est le loisir. Alors, c'est un ouvrage qui aurait pu avoir un destin universitaire, un ouvrage de niche d'une certaine manière, sauf que aujourd'hui, 1 milliard de personnes sont concernées d'une certaine manière par cet état de loisir. Alors, studieux ou pas studieux, mais cet état de loisir forcé. Qu'est-ce que l'ossium, Jean-Miguel Pire?
Alors, l'ossium, en fait, c'est le loisir. Et moi, je m'intéresse plutôt au loisir studieux, c'est-à-dire le loisir qui concerne la vie de l'esprit, la vie où on réfléchit de façon désintéressée et où on développe sa conscience et dans un objectif de progrès. Dans l'Antiquité, c'est une forme de loisir qui est extrêmement valorisée parce qu'elle permet de développer son fort intérieur, son jugement, son libre arbitre. Et c'est ça qui permet l'accès aux grandes questions existentielles, la beauté, la justice, la sagesse. Et ce sont des questions qui, pour être abordées valablement, nécessitent ce désintéressement que permet l'ossium studieux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, cet ossium s'est un peu perdu. L'ossium a été essentiellement un ossium de divertissement. Et l'histoire des mots est assez hésitante, même assez stupéfiante, puisque le monde marchand, qui est le monde qu'on peut appeler le monde du négoce, est fondé sur la négation, finalement, de ce que les anciens considéraient comme un élément essentiel pour se construire ce fort intérieur, ce jugement personnel qui fait de nous des sujets. Donc on est effectivement face à une espèce de télescopage, et on peut espérer que cet ossium contraint permette à nos contemporains de se réapproprier un peu cet ossium studieux.
Alors ça, c'est une vision ou peut-être une version relativement idéaliste de la chose. Néanmoins, lorsque vous êtes une mère ou un père de famille devant s'occuper à la fois de son télétravail et de son enfant, lorsque vous êtes une personne âgée, lorsque vous êtes quelqu'un qui est particulièrement fragilisé chez soi et pour qui la vie quotidienne est un problème, ce temps de confinement, ce temps de loisir ou ce temps sans activité peut devenir un temps de préoccupation et même de souffrance.
Ben, je pense que la souffrance, elle vient peut-être effectivement du fait que le loisir est considéré essentiellement comme un divertissement. Je pense que quand on est essentiellement dans une démarche de divertissement, il y a un moment donné où on est soumis à une sorte de satiété, on a une sorte de sentiment de vide, et la seule façon de combler ce vide, c'est justement de se tourner vers des démarches un peu plus substantielles, un peu plus nourrissantes, où on se reconstruit un fort intérieur, on essaie justement de dépasser cette espèce d'envahissement notamment des médias. Alors effectivement, le contexte matériel est déterminant, mais c'est peut-être plutôt moins en termes de quantité qu'en termes de qualité, que si pendant une journée, on peut consacrer quelques minutes à cette démarche existentielle, peut-être là, on va reconquérir progressivement un goût d'un divertissement qui soit une source de progrès.
Jean-Miguel Pire, l'ossium, c'est le contraire de la notion qui était assez abjecte de temps de cerveau disponible.
Effectivement, c'est l'aboutissement complet de la marchandisation d'une démarche qui en vient à même valoriser d'une façon marchande, d'une façon financière, ce temps de cerveau, ce temps de vie mentale qui devrait être celui d'un temps de construction personnelle qui est la condition du sujet et qui est la condition du citoyen. Donc effectivement, je le dis dans le livre, quand dans le débat public, on en arrive tranquillement à asséner cette idée que l'on peut vendre le temps de conscience de nos contemporains, on manifeste là qu'on est arrivé à un point de basculement un peu, et que finalement l'individu et sa capacité de réfléchir de façon libre est une variable d'ajustement. Et peut-être que ce qu'on est en train de vivre est une façon de nous ressaisir de ces enjeux et de considérer que, bah oui, effectivement, peut-être l'homme et sa conscience ne sont pas des variables d'ajustement.
1 milliard de personnes confinées, comment évalueriez-vous la différence entre l'ossium au sens des Romains ou des Grecs et la paresse ?
Mais effectivement, l'ossium studieux est une ascèse, c'est un effort, c'est un travail qu'il faut faire sous soi-même. Effectivement, les conditions dans lesquelles on se trouve sont déterminantes, et si les conditions sont plus confortables, c'est peut-être plus simple, mais ce n'est pas une garantie non plus. On peut très bien se livrer au divertissement. Mais la paresse peut être une façon de se réapproprier un rapport non utilitaire au temps. Je commence le livre par une citation de Paul Valéry, nous ne savons plus féconder l'ennui. Et je trouve que ça dit bien ce qui est au fond de cet Ossium studieux, qui est le désintéressement. C'est-à-dire, il faut être dans une démarche où on ne va pas calculer, on ne va pas essayer de chercher un objectif rentabilisable. Et effectivement, la paresse peut être une sorte de mise en condition de cette exigence.
Ce que vous dites nous fait penser à des livres comme L'éloge de la paresse d'auteurs qui étaient des auteurs considérés comme anarchistes. Il y a quelque chose de très subversif dans une éloge de la paresse, Jean-Miguel Pire.
Mais ce qui est subversif, en fait, c'est s'intéresser à l'individu, à la conscience individuelle et à la possibilité pour chacun d'être le protagoniste du sens et des valeurs. En fait, c'est plutôt ça qui est la grande question et c'est la question centrale de l'histoire de la liberté humaine. Au fond, c'est est-ce que les sociétés, et y compris la nôtre, font une confiance considérable aux individus et à leur possibilité d'inventer le sens, la valeur et la sagesse. C'est à mon avis, c'est là qu'est la vraie subversion, et c'est ça qui est peut-être remis en question aujourd'hui, avec un monde où on voit que l'excès des valeurs marchandes, ou en tout cas l'hégémonie même de la marchandisation, a conduit à des catastrophes environnementales, et on voit même que la situation, enfin cette situation de pandémie et des articles le montrent, est immédiatement liée à une destruction de l'environnement qui a été faite pour des raisons purement marchandes.
Merci.
Confiné.
Vous êtes à Paris, François Gemène. Je rappelle que vous êtes membre du GIEC, le groupement intergouvernemental des experts sur le climat, que vous êtes chercheur en spécialiste en politique de la Terre et auteur, je le montre car je l'ai avec moi, de cet atlas de l'Anthropocène publié par les presses de Sciences Po Paris et postfacé par le philosophe Bruno Latour. François Gemène, vous avez dit il y a quelques jours, en pleine crise sanitaire et en plein désastre sanitaire, le bilan du Covid-19 pourrait être globalement positif. Ça a été vécu par certains comme une formule provocante, voire choquante. Qu'est-ce que vous entendiez par là?
Attention, je parlais uniquement des chiffres en Chine et effectivement, quand on voit la réduction de la pollution atmosphérique en Chine qui était entraînée par les mesures de confinement, effectivement, on peut formuler l'hypothèse qu'il y aura eu davantage de vies épargnées par les mesures de confinement qui ont permis de réduire la pollution atmosphérique de l'ordre de 20 à 30% pendant cette période, que de vies qui ont été perdues à cause du coronavirus. Il y a 1 100 000 personnes qui décèdent chaque année prématurément en Chine à cause de la pollution atmosphérique. Il y a manifestement un nombre de morts qui s'établit autour de 3 500 morts en Chine à cause du coronavirus. Et donc effectivement, ces mesures de confinement rapide ont sans doute permis d'épargner la vie de certains, mais il est certain qu'au regard de la crise globale, ça paraît quand même malgré tout relativement dérisoire. Et il faut se méfier, je crois, des propos qui pourraient dire « Attention, le coronavirus va être finalement positif pour le climat ou positif pour la pollution atmosphérique. » Il va évidemment y avoir des effets positifs, je crois, de façon assez temporaire et éphémère. Effectivement, on peut s'attendre en 2020, par exemple, à une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais le risque, c'est que ces émissions repartent à la hausse immédiatement après. On voit déjà la Tchéquie, la Pologne qui demandent à la Commission européenne de renoncer au Green New Deal. On voit également le Canada qui lance un plan de relance et de sauvetage de son économie fossile. Et donc le risque, c'est bien qu'il y ait un rebond massif après, et aussi un risque psychologique qui tient au fait que la population pourrait rejeter massivement toute politique de lutte contre le changement climatique après. Je ne pense pas qu'on se souviendra avec bonheur de cette période de quarantaine et de confinement. Et donc ça risque bien d'induire dans l'esprit des gens un rejet massif de ces mesures.
Donc vos propos, François Gemène, font douter de la possibilité pour cette crise de devenir un vecteur pour une forme de démondialisation, comme certains l'appellent de leur vœu, des économistes, des philosophes, des sociologues.
Je le souhaiterais aussi, mais je crois qu'il faut se méfier de ce parallèle qui voudrait voir dans la crise actuelle une forme de répétition générale pour le changement climatique. Les deux crises sont très profondément différentes l'une de l'autre. D'abord, parce que le changement climatique n'est pas une crise. C'est une transformation durable et irréversible du climat de la Terre. Et donc les mesures que nous devons prendre face au changement climatique, ce doivent être des mesures pérennes, durables. Il ne s'agit pas de nous confiner pendant quelques jours et puis de reprendre notre vie comme avant. Et donc nous acceptons les mesures de lutte contre le coronavirus parce que nous savons aussi qu'elles sont temporaires et parce que nous savons qu'une fois que nous serons confinés pendant 1 mois ou 2 mois, eh bien nous espérons pouvoir revenir à la normale. En matière de changement climatique, il n'y aura pas de retour à la normale. La température ne va pas baisser, le niveau des mers ne va pas baisser. Et puis aussi, les mesures que nous prenons contre le coronavirus sont avant tout des mesures qui touchent à nos comportements, à des changements de comportement. Et on sait bien que ces changements de comportement ne suffiront pas à lutter contre le changement climatique, qu'il faudra des mesures structurelles. Et donc, méfions-nous de cette tendance, même si les deux crises ont évidemment beaucoup de points communs, méfions-nous de cette tendance à considérer le coronavirus comme une sorte de répétition générale avant le changement climatique.
Donc lorsque le prêtre jésuite et économiste Gaël Giraud disait « ce sera l'occasion et le moment de réenvisager une réindustrialisation écologique », c'est un vœu pieux, selon vous ?
Ce pourrait l'être, et je le souhaite autant que Louis, mais il faut se méfier, je crois, de ces vœux pieux et se dire, et bien prendre compte qu'il y aura beaucoup de forces qui souhaiteront relancer la machine comme avant. Et donc je crois qu'il y a urgence aujourd'hui à commencer à réfléchir sur la manière dont nous voulons sortir de cette crise, sur la manière dont nous allons relancer l'économie. Il est certain que les gouvernements devront injecter des milliards dans l'économie à la sortie de la crise. La grande question, c'est de savoir ce qu'ils feront de ce formidable instrument de planification économique. Est-ce qu'il s'agira de relancer les énergies fossiles ou au contraire, est-ce qu'on pourra les utiliser comme un levier pour faire émerger une économie post-carbone? Je souhaite évidemment qu'on se dirige vers la seconde option, mais prenons garde à des excès de naïveté.
François Gemène, vous êtes spécialiste des migrations et vous avez milité pendant longtemps pour la suppression des barrières aux frontières européennes. Là, vous avez bien vu et noté que tous les pays de l'Union européenne ont fermé leurs espaces pour lutter contre la propagation du Covid-19. Est-ce que ces barrières, ces frontières ne sont pas d'une certaine manière, n'ont pas prouvé leur utilité d'une certaine manière ?
Je dirais que la crise actuelle rappelle d'une certaine manière la crise de l'asile et des réfugiés qu'on a connue à partir de 2014, c'est-à-dire le fait qu'une absence de politique commune au niveau de l'Union européenne et l'absence de solidarité entre États membres amenaient à la fermeture des frontières. On a exactement la même situation ici. Pourquoi est-ce que les États sont amenés à fermer les frontières? Simplement parce qu'ils ont des politiques sanitaires très très différentes, que les règles de confinement sont très différentes d'un pays à l'autre et que, encore une fois, l'absence de réponse commune au niveau européen, l'absence de solidarité européenne qui conduit l'Italie à demander l'aide de Cuba, du Venezuela ou de la Chine,
et de la Russie,
fait qu'effectivement, on voit ce délitement du projet européen et la fermeture des frontières européennes.
François Gemène, vous avez publié donc cet atlas de l'Anthropocène et vous dites que l'Anthropocène, c'est la prise de conscience dans la douleur qu'on ne peut pas séparer la Terre du monde. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Jusqu'ici, nous nous sommes toujours comportés comme si la Terre et le monde étaient deux choses différentes, comme si la Terre était l'astre sur lequel nous habitions, et comme si le monde était l'organisation politique et sociale de la Terre, et comme si, au fond, rien de ce qui se passait dans le monde ne pouvait vraiment affecter la Terre. Et quelque part, l'Anthropocène nous rappelle, effectivement, avec une certaine violence et une certaine brutalité, que ce que nous faisons dans le monde a des conséquences profondes sur la Terre, de la même manière que la Terre a, elle aussi, des conséquences profondes sur le monde.
Dans cet atlas, il n'y a que deux entrées sur les virus, j'ai regardé ce matin. Est-ce que vous auriez sous-estimé la prolifération à venir des sources pathogènes et des sources animales, c'est-à-dire liées à la transmission entre l'animal et l'homme ?
C'est-à-dire que l'Anthropocène est véritablement protéiforme et a énormément de dimensions, et donc forcément l'exercice d'un atlas fait qu'il faut consacrer au plus un chapitre ou deux à chacune de ces thématiques. Mais effectivement, un des grands risques avec le changement climatique, c'est qu'il y a un impact considérable sur les maladies infectieuses. On sait par exemple que le pergélisol, c'est-à-dire la couche du sous-sol gelée en permanence en Sibérie ou au Canada, recèle de nombreux virus et bactéries qui pourraient être libérés dans l'atmosphère si jamais ce pergélisol venait à fondre. Et donc ce que la crise nous enseigne aussi, c'est qu'il faudrait sans doute davantage insister sur les conséquences sanitaires du changement climatique, simplement parce qu'on voit que c'est quelque chose qui touche davantage les gens. Nous avons bien davantage peur du coronavirus que du changement climatique, parce que nous avons peur de contracter nous-mêmes la maladie, qu'il y ait un sentiment d'urgence, d'immédiateté et de proximité, tandis que le changement climatique nous paraît encore très très loin, très distant, comme quelque chose qui arrivera aux autres avant de nous arriver à nous-mêmes.